Henri de Régnier, La double maîtresse, deuxième partie, chapitre 5. Mademoiselle d'Amberville habitait non loin de la Seine, du côté de Chaillot, presque au champ. Elle avait là de grands jardins, avec des charmilles et des tonnelles, et beaucoup de roses, car elle aimait que leur odeur se mêlât à l'air qu'elle respirait. Son goût pour les essences la fit, dès premières, adopter la mode des vernis parfumés qui font sentir au lambris le jasmin ou la violette. Elle était sensible à tout ce qui augmente le plaisir de vivre, jusque dans les détails les plus particuliers. Elle voulait partout, autour d'elle, le luxe le plus ingénieux. Ses recherches faisaient loi. Aussi parla-t-on longtemps de la garde-robe qu'elle avait fait installer dans sa maison de Chaillot et dont la description courut les gazettes. Un siège de bois odoriférant, dans une niche de charmilles peintes, offrait l'invention d'une cuvette à soupape et des armoires vitrées contenaient un assortiment complet de porcelaines intimes. Monsieur de Portebise avait lu jadis cette description à messieurs de Créange et d'Oriocourt et les trois jeunes gens, au fond de leur province, s'étaient fort récriés sur tant de raffinement et de politesse, sans penser que l'un d'entre eux souperait jamais en ce logis fameux, car en ce temps-là, François de Portebise ne songeait guère non plus à l'avantage d'être le petit-neveu d'un certain monsieur de Galando, ce dont il constatait maintenant chaque jour le bon effet et les suites heureuses. Monsieur de Portebise pensait bien que mademoiselle d'Amberville n'habitait point un palais de théâtre, mais il s'attendait au moins à trouver devant sa porte grand assemblage de carrosses. Aussi, fut-il assez étonné quand le sien, après avoir passé la place Louis XV, remonté le cours La Reine et fait encore quelques chemins, s'arrêta devant une grille qui n'était même point ouverte. Basque sauta à bas et fit tapage jusqu'à ce que le portier sortît de sa loge. Sa petite livrée ne présageait aucun apprêt. Il indiqua à M. de Portebise l'allée de la maison. Un peu de neige poudrait le sol. Deux statues blanches se dressaient de chaque côté du perron. On ouvrit. À son entrée dans le vestibule, M. de Portebise ressentit agréablement l'impression d'une tiédeur égale et douce. Les murs de stuc luisaient du reflet d'une lanterne qui brûlait sourdement en veilleuse. Un haut poêle de faïence blanche caillait dans un coin sa rocaille laiteuse et ronflait doucement. Deux grands laquais, assis sur des sièges à tapisserie, tricotait en silence. L'un d'eux conduisit M. de Portebise, poussa une porte et annonça. C'était une pièce en rotonde, peu éclairée et très chaude. Quelques hommes se levèrent et dans une sorte de tonnelet capitonné, entre les feuilles d'un paravent, M. de Portebise vit une forme vaporeuse et emmousselinée et un fin visage où il reconnut, en esquisse et comme lointain, le sourire qu'il avait charmé aux lèvres mêmes d'Ariane. « Ah, le voilà !» s'écria la grosse voix enrouée du chevalier de Gurcy, qui, venant à M. de Portebise, l'embrassa à plusieurs reprises. « Ah, le voilà ! Permettez-moi, mon cœur, de vous le présenter. J'espère, monsieur, que vous ne vous ennuierez pas trop en notre compagnie, puisque le chevalier prétend que vous supportez la sienne, qui est bien la plus importune que je sache. Mais il est bon garçon, et on vous le passe. Vous connaissez sans doute M. de Gurcy depuis longtemps ?»« Pardi, riposta le chevalier, de tout temps. Il y a plus d'un mois que nous ne nous quittons guère. Je l'ai rencontré chez les filles où votre rigueur m'avait conduit et où son goût le menait, car il n'a point d'affaires en règle. Ma mère, qui en est folle, en voudrait bien une avec lui, et s'il s'y dérobe plus longtemps, c'est avec moi qu'il l'aura. Voyons, Gurcy, trêve de folie. Nommez votre ami à ces messieurs et donnez-moi ma boule à main qui chauffe au foyer. » Monsieur de Gurcy obéit et apporta, avec des grâces d'ours, une petite bouillotte d'argent qui tiédissait sous la cendre. Mademoiselle d'Amberville était frileuse. En hiver, sans renoncer aux gazes légères dont elle enveloppait sa beauté, elle tenait à se sentir au plus chaud. Sa maison était admirablement aménagée à cet effet. La fermeture des fenêtres et des portes était exacte et l'air entretenu avec soin d'une tiédeur égale. Son corps souple vivait secrètement dans une chaleur ouatée. Elle s'y trouvait à l'aise et, ainsi douillettement emmitouflée en dessous, elle conservait en dessus ses robes printanières. et à l'abri des vents coulis, les pieds enfouis au coussin, elle s'envoyait nonchalamment au visage, de son éventail parfumé, la caresse d'un continuel zéphyr. Monsieur de Portebise la trouvait ainsi charmante. Il regardait avec étonnement cette personne molle et vaporeuse qui donnait l'idée de je ne sais quoi de fragile et de tendre en la paresse de ses mousselines. Et il se demandait comment pourrait bien sortir de cette rose épanouie l'abeille agile dont le vol vif avait ébloui ses yeux et vibrait encore en son souvenir. Le premier convive à qui le chevalier de Gurcy présenta M. de Portebise s'appelait M. de Parmenil. M. de Parmenil était un grand et bel homme, maigre, poli et cérémonieux. Naturaliste et voyageur, il avait fait le tour du monde. On sentait à le voir que les spectacles les plus singuliers, les coutumes les plus bizarres, les circonstances les plus étranges n'avaient pas dû le faire se départir de ses façons et de ses habitudes. On l'imaginait aux antipodes comme il paraissait ici même. Il vous regardait du même œil qu'il eût examiné un Algonquin, un Caraïbe ou un Papou. On racontait que, jeté par un naufrage dans une île déserte, il y resta 3 ans, n'ayant sauvé de la tempête que sa canne et une trousse à main. En l'ouvrant, il vit qu'il possédait pour tout bien un petit carré de miroir, une savonnette et une paire de rasoirs. Quand, au bout de 3 ans, la chaloupe d'un vaisseau anglais vint faire égade dans l'île, l'officier qui la commandait rencontra, se promenant sur le rivage, un homme tout nu qui marchait gravement, la canne à la main. On le recueillit, et quand il arriva ainsi à bord, le capitaine du vaisseau remarqua avec admiration que M. de Parmenil avait la lèvre, le menton et la joue rasées de fort près, et qu'il suffit de lui donner un habit pour refaire de lui un gentilhomme aussi correct que si, au lieu de venir de passer 36 mois à la sauvage, il sortait de son cabinet ou de quelque compagnie à la mode. M. Garonard, le peintre, était encore plus haut et plus sec que M. de Parmenil, mais d'une tenue qui contrastait avec la sienne. D'un gilet déboutonné s'échappait un jabot de travers. De ses manchettes, toutes deux de la plus fine dentelle, l'une lui pendait déchirée au poignet. M. Garonard avait les mains impatientes, l'œil rapide, la figure longue et irascible, le nez osseux et les joues balafrées de tabac. Il ne cessait guère, soit en causant, soit en travaillant, de plonger les doigts dans sa tabatière. Il possédait un assortiment de boîtes de toutes sortes qu'il sortait de ses poches, oubliait d'y remettre et laissait traîner sur les meubles où il puisait à tout moment et dont il éparpillait par pincée le contenu sur ses habits et jusque sur sa palette. Il s'en mêlait aussi à la poussière colorée de ses pastels et plus d'un de ses portraits portait à la joue la mouche involontaire d'un grain de tabac. Malgré la brusquerie de son humeur, les exigences de ses caprices et les écarts de son caractère, les hommes et les femmes recherchaient également la faveur de son crayon. Il excellait à rendre les physionomies en leurs détails le plus changeant et à en saisir la mobilité même. Si la société se disputait à prix d'or la mode d'être peinte par M. Garonard, quelques amateurs se partageaient silencieusement les toiles, les dessins et les eaux-fortes où il traitait pour lui-même et pour eux, le seul sujet qui l'intéressa vraiment. M. Garonard était le peintre du corps des femmes en sa nudité et en sa couleur. Il l'étudiait passionnément. Il demandait à l'amour ses attitudes les plus secrètes et les plus hasardeuses, et il les reproduisait avec tant de liberté et d'exactitude qu'on y sentait vivre la volupté et le plaisir. M. Garonard n'usait point pour cela de modèle proprement dit. Il détestait les beautés d'académie et d'atelier, mais rencontrait-il dans la rue ou ailleurs quelque belle fille, il l'amenait chez lui et la priait de se mettre à l'aise et d'oublier qu'il était là. Parfois, il en réunissait plusieurs et les faisait se taquiner et s'ébattre entre elles, et, suivant du crayon leurs mouvements et leurs gestes, il s'efforçait de fixer les plus naturels et les plus agréables. Son papier se couvrait ainsi d'esquisses et de croquis, où il trouvait ensuite un vivant répertoire de formes animées. Chaque matin, il le feuilletait négligemment jusqu'à ce que l'une des figures qui lui passait sous les yeux arrêtât son attention. Alors, il la reportait sur une feuille d'étude et la travaillait séparément. Il n'y ajoutait ni paysage ni accessoires. Il ne voulait que la grâce des lignes et la vérité du dessin. La nudité des corps semblait plus nue encore au vide du papier, et M. Garonard prétendait que la rondeur d'un sein, la courbe d'une hanche, le pli d'une nuque ou l'ampleur d'une croupe suffisent par eux-mêmes à faire tableau. C'est ainsi qu'il avait composé et dessiné, d'après Mademoiselle d'Amberville, une admirable suite de 100 figures au naturel qui étaient, au dire de la danseuse, l'histoire de sa beauté. Elle les gardait précieusement et ne les montrait guère. Les quelques pièces du même genre dont M. Garonard s'était dessaisi avec peine appartenaient à M. de Bercherolles ou à M. de Parmenil qui les conservait jalousement, de telle sorte que le public ignorait assez le singulier talent de son peintre à la mode et que les belles dames de Paris et de Versailles, qui se disputaient l'avantage de payer fort cher leurs portraits, ignoraient que ce long homme maigre qui leur imposait durement ses inexactitudes et ses lubies était moins sensible à l'honneur de représenter leur visage qu'au plaisir de dessiner à nu la moindre petite coureuse, pourvu qu'elle eût, comme le disait crûment M. Garonard, le rein souple et la fesse jolie. Messieurs de Clercilly et de Bercherolles, à qui Gurcy mena ensuite M. de Portebise, le saluèrent fort poliment. Ils passaient tous deux pour gens d'esprit. M. de Bercherolles en avait de toutes les sortes, et même celui d'être riche. M. de Clercilly se vantait de savoir se passer de l'être. Il ne s'appelait jamais autrement que le pauvre Clercilly, et le sobriquet lui en restait. Sa petite taille convenait parfaitement bien à son visage, vif et fin. Né pour l'intrigue, il avait le pas léger, l'allure souple, la pirouette prompte. Il n'entrait point, mais se glissait. Il ne sortait pas, mais s'esquivait. Il entrebâillait les portes sans les ouvrir entièrement. Mademoiselle d'Amberville le surnommait le vent coulis. L'hiver prochain, je ferai faire une chatière pour Clercilly, disait-elle en riant. Il semblait en effet avoir pris la précaution de ne pas grandir pour pouvoir rentrer en terre plus facilement. Il avait été très aimé des femmes sans qu'on sût au juste s'il les aimait. Lui se prétendait fidèle et sensible et se plaignait qu'on ne lui eût jamais donné le temps de s'attacher. C'est alors qu'il gémissait sur le sort du pauvre Clercilly. Il ne tarissait point sur ce qu'il nommait ses bonnes infortunes. Avec tout cela, pas mauvais homme, mais bavard, sémillant, coquet et fat, et se vantant d'avoir eu, à mesure, toutes les maîtresses de son ami M. de Bercherolles. Celui-là était à 45 ans, assez gros et tout vermeil, avec une figure fraîche, de beaux traits un peu gras, de la prestance et de la grâce. Financier, habile et heureux, il avait passé aux fermes générales juste le temps de se faire les mains et, une fois faites, il n'avait eu de cesse de sortir de là. Aussitôt, de gros fermier, il devint du coup grand seigneur. « Bercherolles, lui avait dit M. de Clercilly, il s'agit maintenant de dépenser et de te désenrichir. » M. de Bercherolles suivit le conseil. Autant, aux affaires, on l'avait connu âpre, flibustier et mécréant, autant il se montra dès lors doux, poli et généreux. Son train lui valut l'estime et l'amitié du monde, car nulle part on ne mangeait mieux que chez lui. Il restitua par le faste et par la table ce qu'on lui eût reproché autrement de garder pour lui. On lui sut gré de l'usage qu'il faisait de ses écus, car il sut être à propos libéral et oublieux. Le tout, disait-il souvent, est de savoir se modérer. Ce que l'on reproche aux traitants est moins de s'enrichir, ce qui prouve après tout leur sens et leur habileté, que de s'obstiner à s'enfler outre mesure, ce qui marque alors leur avidité et leur avarice. On leur demande assez justement de la promptitude à se mettre en état. Un homme, en effet, qui passe 50 ans à faire fortune, garde de ce long labeur un fumet de finance qui ne sent point bon et qui ne s'évapore pas. Il lui reste une gourme de gagne petit dont il ne se défait plus. Il s'agit tout au contraire d'aller vite et bien en besogne et de rentrer au plus vite son fumier. En ce cas, on n'est plus qu'un galant homme qui a eu la malchance d'avoir à s'enrichir et la chance de devenir riche. Le fait est que le marquis de Bercherolles ne conservait rien de son ancien métier. Il se montrait gentilhomme accompli, fastueux et magnifique. Il exprimait avec grâce et mesure des pensées délicates et raisonnables qui lui composaient une sorte d'éloquence aisée. Il montrait un goût éclairé des lettres et des arts. Sa générosité tenait bourse ouverte et table servie, et on eût juré qu'il n'avait jamais fait autre chose que rendre service aux gens, car il se comportait en tout avec une grandeur et une décence qui lui valaient tous les suffrages et détruisaient les préjugés qu'on eût pu conserver à son égard. Aussi, M. de Portebise se sentit-il dès l'abord attiré vers lui et Gurcy dut le tirer par la manche vers M. de Saint-Bérin, qui restait le dernier et dont les petits vers et les madrigaux rendaient le nom familier à quiconque se piquait d'être du monde. « Gurcy, vous oubliez l'abbé ?» dit Mademoiselle d'Amberville. « Il me semble plutôt que l'abbé nous oublie, » répondit M. de Saint-Bérin, « car il dort comme à l'église quand il est dans un des temples de l'amour. » M. de Portebise vit alors, dans un coin du salon, un vieil et gros abbé qui, assis dans un vaste fauteuil qu'il remplissait de sa corpulence béate, dormait profondément, les mains croisées sur son ventre. Ses mentons débordaient sur son rabat et toute sa personne donnait l'idée de la satisfaction et du repos. On fit cercle autour de lui sans qu'il s'éveillât. La petite chatte blanche de Mademoiselle d'Amberville sauta lestement sur la cuisse et passa sa langue rose sur les grosses mains jointes du dormeur. « Allons, Varocourt, éveillez-le » dit Mademoiselle d'Amberville à une grande femme blonde et grasse qui venait d'entrer. « Vous arrivez juste pour cela. » Mademoiselle Varocourt, de l'opéra, se pencha sur l'abbé et l'embrassa bruyamment aux deux joues. Le bonhomme ouvrit les yeux. Sa mine endormie s'éclaira. Il poussa un joyeux soupir. Les rides de sa large figure rougeaude se froncèrent et un bon rire sonore et frais sortit de sa bouche et secoua sa panse. Il prit Mademoiselle Varocourt par la taille et se leva à cet appui. « À table !» dit Mademoiselle d'Amberville. « Monsieur de Portebise, vous y ferez mieux connaissance avec l'abbé Hubertet. » « Ah, monsieur, dit l'abbé, j'ai, sans doute, beaucoup connu votre grand-oncle, monsieur de Galandot. »